faire un petit effort pour que les choses s'améliorent. Si l'on veut que la terre tremble, il faut qu'on s'y mette ensemble.
Philanthropia avec la Fondation Caritas France. Geneviève Delmarmol.
Bonjour à tous, bienvenue dans Philanthropia, l'émission dédiée à ceux qui œuvrent pour un monde meilleur, ceux qui tendent la main et ceux qui, de plus en plus nombreux, agissent pour préserver notre planète. Bonjour Margot Nasreddine.
Bonjour.
Responsable du programme de lecture et des activités culturelles à l'association Lire pour en sortir, la seule association en France à proposer aux personnes détenues des actions d'insertion par la lecture. Alors, quel en est le principe, Margot Nasreddine ?
Le principe, du coup, c'est de proposer aux personnes détenues un programme d'accompagnement personnalisé à la lecture au travers un catalogue qui propose des livres de type, des BD, des romans et la rencontre d'un bénévole régulièrement pour échanger autour de ces lectures. Voilà, ça, c'est le programme fondateur. Après, il y a tout plein d'autres activités qu'on a pu développer au fil...
Qu'on va essayer de développer. Alors, vous accompagnez chaque année quand même déjà plus de 1300 détenus dans 25 prisons en France, c'est ça, hein ?
Exactement.
Alors, cette belle initiative, on le doit à un avocat, Maître Alexandre Duval-Stala, qui est avec nous au téléphone. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez eu cette idée géniale en 2014. Vous êtes avocat, écrivain et professeur dans les universités. Comment vous est venue cette idée, Alexandre Duval-Stala ?
Eh bien, c'est en écoutant une émission de radio, comme quoi il faut écouter la radio, qui faisait état d'une initiative au Brésil, dans une prison, où en contrepartie de la lecture d'un livre, la personne détenue de longue peine, de longue durée, avait 4 jours de remise de peine. Et donc, je me suis dit que dans notre pays, un tant soit peu littéraire, on pourrait peut-être mettre ça en place. Et comme j'étais bénévole au Secours catholique, ça nous a permis effectivement de monter ce projet et avec une forme d'inconscience de présenter un amendement à un projet de loi sur la justice qui a été, à notre grande surprise, adopté. Et du coup, par la suite, nous avons à la fois imaginé effectivement les différentes activités de Lire pour en sortir, son développement et l'idée qu'il soit ouvert à toutes et à tous et à tous les établissements et que ce soit en France ou en métropole, enfin en métropole ou en Outre-mer, puisque nous voulions vraiment être présents sur l'ensemble du territoire et auprès de l'ensemble des personnes détenues, qu'ils soient des enfants, des femmes ou des hommes.
2014-2022, 8 années déjà, Alexandre Duval-Stala. Quand vous vous retournez sur ce chemin, qu'est-ce qui vous vient ?
En fait, il me vient d'abord une magnifique aventure collective, fraternelle, puisque je n'étais pas seul, bien évidemment. Il y a plein de gens qui ont contribué à cette aventure et qui ont fait en sorte qu'effectivement, après 8 années, nous soyons présents dans près de 30 établissements sur toute la France, que nous ayons acheté près de 30 000 livres sur toutes ces années, que nous avons fait bénéficier à près de 10 000 personnes toutes nos activités, et qu'aujourd'hui, grâce à nos 200 bénévoles, nous puissions offrir effectivement ce programme personnalisé qui est extrêmement fraternel et qui change en profondeur en fait à la fois les conditions de détention tant dans l'atmosphère que de la relation entre notamment les surveillants et les personnes détenues, mais plus profondément qui donne à toutes ces personnes-là les capacités qu'il ne leur avait pas été donné au préalable, c'est-à-dire de s'exprimer, de parler, d'échanger et de se défendre.
Et de se défendre, un cercle extrêmement vertueux. Merci Alexandre Duval-Stala, on va voir ça en détail avec Margot et avec notre bénévole Agnès. À bientôt et merci.
À bientôt.
Oui, bonjour Agnès, voilà, bénévole à la Maison d'arrêt de Nanterre, je vous présente déjà tout de suite, merci d'être avec nous. Margot Nasreddine, d'abord, 10% de la population carcérale en situation d'illettrisme, c'est quand même considérable, et 30% qui ne maîtrisent pas les savoirs de base. Et surtout, la moitié des personnes détenues ne reçoivent jamais de visite en prison. Alors tout ça, c'est une des raisons pour laquelle Lire pour en sortir est vraiment important.
Oui, tout à fait. C'est vrai que le principe, comme le disait Alexandre, c'était vraiment d'aller... d'ouvrir ce programme à tout le monde, quel que soit son niveau de lecture. Et c'est vrai que les bénévoles font un travail formidable pour, on va dire, accueillir les personnes où qu'elles en soient sur leur niveau de lecture. Le catalogue de lecture est aussi fait pour ça. Il propose des livres de tout niveau, de toute épaisseur, on va dire, des livres beaucoup plus longs, des livres
sujet
plus courts.
Sujets et thèmes aussi, bien
des
sûr.
Des sujets et thèmes également sûr, très variés. Et les bénévoles accompagnent les personnes. Alors, il faut savoir que ces livres sont accompagnés d'une petite fiche de lecture qui permet donc de faire une attestation pour les juges d'application des peines qui permet après de pouvoir bénéficier d'une remise de peine, en tout cas qui rentre en compte.
Rentre en compte, oui. C'est pas la seule raison, mais ça rentre en compte.
Exactement, dans ce processus. Et c'est vrai que du coup, quand les lecteurs ou les lectrices ont un petit niveau, les bénévoles peuvent échanger avec eux, peuvent co-rédiger cette fiche de lecture suite aux échanges qui ont pu émerger pendant les entretiens, pendant les rendez-vous. Et puis après, il y a aussi des lecteurs et des lectrices qui ont un excellent niveau et qui, du coup, rédigent d'eux-mêmes les fiches de lecture et les échanges sont plus libres au-delà de la fiche. Et d'ailleurs, à la maison d'arrêt de Nanterre se trouve le plus gros lecteur, on va dire, de l'année 2021 qui a lu 71 livres, ce qui est énorme. Ça représente 27%, j'ai calculé, de notre catalogue.
Ah oui, donc, il y a
vraiment tout niveau.
Je me tourne bien sûr vers Agnès qui a préféré rester anonyme. Voilà, Agnès, merci d'être avec nous. Donc, vous faites partie de ces 200 bénévoles. Et vous êtes, on l'a dit, bénévole à la maison d'arrêt de Nanterre. Vous êtes aussi responsable référente de l'équipe des bénévoles. Donc, c'est vous qui gérez tous les bénévoles. Alors, vous êtes dans un quartier. D'abord, qu'est-ce que ce sont les quartiers dans une prison ?
Alors, dans une prison, il y a une organisation assez militaire, d'ailleurs. Et les quartiers sont... je ne sais pas exactement comment on peut dire, mais il y a les nouveaux arrivants, ceux qui viennent d'arriver, il y a ceux qui sont à l'isolement, il y a l'infirmerie, enfin, il y a un certain nombre. Et il se trouve que nous, on est dans le quartier vulnérable, qui sont les personnes qu'on ne mélange pas à la population du reste de la maison d'arrêt.
Donc des peines longues et des cas assez graves.
Oui, c'est plus en termes de, je suppose, parce qu'on ne sait pas bien sûr quelles sont les raisons pour lesquelles les détenus que nous voyons sont dans la maison d'arrêt. Mmh. On ne doit pas leur demander et ils ne doivent pas nous le dire. Mais en général, c'est plus des catégories qui seraient un peu en danger si elles étaient mélangées avec d'autres personnes.
D'accord. Et donc, il vous faut quand même un certain courage pour aller aider dans la prison. C'est une cause qui n'est pas facile. C'est plus difficile que d'aller s'occuper de bébés. C'est quand même... pas rien.
Alors, je ne sais pas. Écoutez, j'apprécie que vous disiez ça, mais en revanche, ça ne me paraît pas très difficile. Je pense qu'il y a des personnes, et je l'ai vu dans les bénévoles, qui se sentent appelées à faire ce type de bénévolat et que c'est, du coup, ça devient naturel. Il est clair que les premières fois, il y a une certaine appréhension à passer les barrières de la prison quand même. Je reconnais que des bénévoles qui ont été formés récemment, je leur avais dit « Waouh, c'est un peu impressionnant au début ». Elles m'ont dit « Heureusement que tu nous as dit ça parce qu'on a été un peu impressionnés ». Les portes se ferment derrière vous et s'ouvrent et il y a énormément de portes entre l'entrée et le moment où vous voyez les détenus. Donc ça reste impressionnant. Mais courage, écoutez, on ne se sent pas du tout en danger. On est très en confiance. Il faut être vigilant, je pense. Mais l'accueil des détenus est tel et ils sont tellement contents de ce programme de lecture, de nous voir et de ces rencontres, que je trouve que ça vaut le coup, en fait, de dépasser cette petite appréhension.
Une forme de récompense immédiate et très spontanée. Alors, Agnès, justement, on va regarder avec vous. Vous êtes impliquée dans le programme de lecture. Racontez-nous comment ça se passe exactement, une séance.
Alors, une séance, on a donc un catalogue, qui est un beau catalogue en papier glacé, avec tous les... Non, mais c'est vrai, c'est de qualité.
Combien de titres ?
Margot.
265.
Ah oui, 200, ouais.
Alors, il y a aussi bien des classiques de la littérature, comme Le Petit Prince de Saint-Exupéry, que des BD, que voilà, des livres de romans actuels. Et ce catalogue est remis entre leurs mains. Ils font un choix d'un livre. Donc, en fait, on les interroge sur leur... goût, sur leur niveau de lecture et ce qu'ils ont envie de lire. Quelquefois, ils ont entendu par d'autres détenus que tel livre était intéressant. Donc, en fait, ça leur donne l'avis ou quelquefois, ça leur donne l'envie ou quelquefois, l'actualité fait qu'ils se tournent vers un sujet. Ils choisissent un livre et ensuite, quand nous, on est revenus chez nous, on le commande à un libraire. On a des libraires référencés qui sont des libraires indépendants. Mm-hmm. Et on fait, donc dans notre équipe, il y a Philippe qui s'occupe de ça. C'est un gros travail. Donc en fait, il commande les livres pour tous les détenus. Il va les chercher chez le libraire et ensuite il les fait rentrer dans la maison d'arrêt. On a une autorisation spéciale pour rentrer des choses dans la maison d'arrêt. Et donc la semaine suivante, on va dire, si le livre est arrivé, chaque bénévole remet le livre avec une fiche de lecture et une biographie de l'auteur au détenu.
Et un livre neuf.
Et oui. Ce livre lui est donné et il le gardera. Voilà. Le bénévole peut aussi commander un livre pour lui s'il le souhaite pour le lire en même temps, pour lire le livre en parallèle.
Alors, le détenu va lire le livre avec la fiche de lecture.
Tout à fait.
Qu'il va remplir au fil de l'eau.
Tout à fait.
Et puis, la rencontre avec le bénévole pour conclure, pour commenter, comment ça se passe?
Alors, il y a des lecteurs qui livrent. Il se trouve que le grand lecteur, c'était mon lecteur. Donc,
celui qui a lu 70 livres, c'est ça.
En plus, en 2021, où il y a eu quand même le confinement et où on était présent à distance. Donc, il a eu beaucoup de mérite. Lui, il lisait 2 livres par semaine facilement, mais sinon, la plupart des lecteurs, ça peut être un livre, ils reviennent, et puis ils nous ont rempli la fiche, et s'ils ont des difficultés, on les aide à remplir la fiche, et ils nous rendent la fiche. Voilà, et nous, c'est cette fiche qui sert pour l'attestation. Et l'idée, c'est de parler sur les sujets. Moi, j'aime bien insister sur qu'est-ce qu'ils ont aimé dans le livre, qu'est-ce que ça leur a apporté, qu'est-ce que ça a rapproché de leur vie, enfin, à quoi ça les a fait penser. Les citations qu'ils ont aimées, les passages qu'ils ont aimés. Est-ce que ça leur a plu? Est-ce qu'ils ont aimé le livre?
Est-ce qu'ils s'inscrivent facilement, Margot Nasreddin?
Oui, je dirais qu'ils s'inscrivent facilement. Après, bon, évidemment, ça dépend des établissements. Tous les établissements sont différents, comme toutes les personnes détenues sont différentes. Mais j'ai l'impression quand même que le programme de lecture remporte quand même une adhésion certaine. C'est sûr que c'est, comme vous le disiez au début, c'est vraiment à la fois de pouvoir avoir une activité qui fait aussi sortir de sa cellule.
Bien sûr. Ouais.
Et aussi rencontrer quelqu'un avec qui échanger de façon régulière. Il y a vraiment un lien de confiance qui se crée aussi avec les bénévoles, puisque les bénévoles en fait ont un certain nombre de lecteurs ou de lectrices qui leur sont attribués et ce sont les mêmes qu'ils rencontrent régulièrement.
D'accord. Est-ce que vous voyez grandir, Agnès, un appétit pour la lecture?
Ah oui, clairement.
Ça peut être amusant d'observer ça.
Et c'est fantastique même, parce que je pense à un de mes lecteurs qui était venu là, à mon avis, plus pour l'attestation qu'autre chose et qui a commencé par une BD. Donc, il a lu les Alix. Il a lu Alix. Et puis, il est allé vers des livres plus compliqués. Donc, il avait lu notamment La vie du Tché. Et comme il avait un peu mal à la lire, je m'étais engagée à la lire en même temps que lui. Et donc, on a lu en même temps le livre et on a pu parler dessus. Et pour moi, c'est merveilleux. Il a lu des romans, mais conséquents, après quelques mois. Et il m'a dit la fierté de sa mère, qui, quand elle venait le voir au parloir, a appris qu'il lisait des livres. Et je pense que vraiment, pour moi, ça, c'est merveilleux.
Oui, c'est merveilleux. Margot ?
Oui, et d'ailleurs, c'est vrai que pour nous, les livres, c'est vraiment une façon de connecter les personnes. Et d'ailleurs, on a fait un ajout à ce programme de lecture individualisé qui s'appelle « Lire en famille », qui permet en fait aux personnes détenues de choisir parmi un catalogue de livres jeunesse, donc entre 0 et 11 ans, pour pouvoir ensuite partager un moment avec leurs enfants dans le cadre des parloirs. Et donc, c'est vrai que comme cette mère et son fils, là, c'est plutôt les parents qui sont en détention, qui offrent ce livre à leurs enfants et qui peuvent partager un moment avec eux, une lecture au parloir, et qui permet aussi de parler finalement d'autres sujets que seulement la détention avec leur famille. Et donc, nous, on croit vraiment à cette création de liens avec la lecture.
Et par la lecture, en présence d'un bénévole, lire pour la famille, lire en famille?
Ah non, du coup, au parloir, les bénévoles ne sont pas présents. Par contre, les bénévoles accompagnent les personnes lors de leurs entretiens hebdomadaires classiques, peut-être parfois à préparer la lecture, puisque tout le monde ne sait pas forcément lire à haute voix, aussi se familiariser avec les livres jeunesse, puisque certaines personnes n'ont pas forcément eu la chance de pouvoir aussi lire des livres jeunesse quand eux, ils étaient petits. Donc, il y a aussi ce travail-là d'accompagnement, mais qui se fait à un autre moment que celui du parloir.
Et ça marche bien, ce programme Lire en famille?
Nous, on en est plutôt contents. C'est vrai que là, c'était vraiment la première première année, 2021, c'était vraiment le grand lancement. Le programme a été lancé d'abord à La Réunion. Quand je lis les fiches de lecture, c'est vrai qu'on voit quand même qu'il y a, en tout cas, un beau moment qui s'est créé grâce à ce livre. Bon, après, les fiches de lecture pour les livres pour enfants sont un peu différentes. C'est vraiment plutôt des questions de pourquoi vous avez choisi ce livre. Est-ce que ce livre a plu à votre enfant? Puisqu'évidemment, ce n'est pas l'enfant qui remplit la fiche de lecture. Mais en tout cas, aujourd'hui, on en est satisfait. Et là, on essaye vraiment de pouvoir le mettre en place dans tous les établissements où on est présent.
Voilà. Alors, parmi les nombreuses activités culturelles dont vous vous occupez, d'ailleurs, Margot Nesridine, une centaine de rencontres entre détenus et écrivains. C'est un grand moment, ça, quand même.
Tout à fait.
Comment ça se passe? D'abord, est-ce que les écrivains se prêtent facilement au jeu?
Alors, déjà, je voulais préciser que, du coup, moi, je m'occupe vraiment particulièrement des programmes de lecture. Et c'est ma collègue Justine Baraquin qui s'occupe surtout des rencontres auteurs. Mais on en parle, évidemment, entre nous. C'est vrai que c'est vraiment des moments très chouettes. Et les auteurs sont souvent ravis de pouvoir échanger sur leurs œuvres. Alors, il faut savoir... On les contacte souvent, pour eux c'est la première fois aussi en détention, donc on peut les accompagner ou bien des bénévoles les accompagnent. Il faut savoir aussi qu'on offre les livres, par exemple on choisit un titre de l'auteur, on offre le livre un mois avant la rencontre auteur pour que les personnes détenues puissent lire le livre avant. Donc c'est vraiment
se préparer.
Exactement. Et d'ailleurs il y a une séance aussi de préparation avec les bénévoles pour préparer ces questions, dépasser peut-être sa timidité, pour pouvoir s'exprimer en public avec l'auteur et devant les autres personnes détenues. Du coup, c'est vraiment des échanges riches, quoi. C'est vraiment sur l'avis du livre, pourquoi vous avez écrit ça comme ça et pas comme ça, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire. Voilà, donc c'est vraiment des. Souvent, les auteurs, une fois qu'ils ont participé, ils ont envie de revenir.
Agnès, j'imagine que vous avez assisté à cela. C'est un,
oui,
un
tout
bon
à
moment.
Fait. Ah, c'est vraiment très important pour eux parce qu'en fait, ils n'ont pas beaucoup d'activités collectives. Ça, c'est une activité collective. Et à la fin, il y a aussi une séance de dédicace. Donc, ils sont fiers aussi. Et puis, je pense que pour eux, c'est toute personne qui rentre de l'extérieur pour les rencontrer. C'est vraiment important. On nous a dit un jour, c'est un vent d'air frais. Enfin, on a l'air frais de l'extérieur. Enfin, voilà, on crée un lien entre l'extérieur et l'intérieur de la prison. Et le livre est le vecteur de ce lien. Et je trouve que ça, c'est bien pour eux. Et les auteurs, ils sont fiers aussi de voir un auteur rentrer dans la prison.
Voilà, alors vous avez organisé, du moins créé le prix Lire pour en sortir. Et là, ce sont les détenus qui doivent élire l'auteur préféré de l'année, c'est ça?
Ah oui, tout à fait. Alors en fait, c'est pas vraiment un vote. Alors j'avoue que donc, moi, je suis arrivée en septembre 2010, donc j'étais pas là lors du dernier prix Lire pour en sortir. Je crois que c'est par rapport aux livres qui ont été le plus lus.
Ah, c'est ça, le livre le plus lu. Oui.
Voilà. Et l'auteur préféré aussi, peut-être. J'avoue que j'ai pas.
En tout cas, les livres les plus lus, qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce qui en ressort?
Alors, en 2021, qu'est-ce qui ressort? On va dire déjà le livre le plus attribué, c'était assez intéressant, je trouve, c'est le dictionnaire. Donc, ça prouve qu'on arrive à attirer des personnes qui ont peut-être un faible niveau, justement, de maîtrise du langage dans nos programmes. Donc, ça, c'est super parce que c'est aussi un des objectifs, évidemment, de donner les clés de compréhension, d'aider à lutter contre l'illettrisme. Mmh. Et ensuite, les deux livres, on va dire le top 3 des livres qui ont été le plus attribués en 2021, c'est Patient de Grand Corps Malade.
Ah oui.
Les accords Toltec et Le Petit Prince.
Le Petit Prince et les accords Toltec.
Les accords Toltec, c'est un livre un peu de développement
personnel.
Oui, développement personnel. Grand succès, effectivement. Et ils sont très friands. Enfin, en tout cas, moi, je vois à la Maison d'Arrêt de Nanterre, ils sont très friands de tous ces livres de développement personnel, de spiritualité. On a l'impression que pour certains, c'est un temps où ils réfléchissent, un temps de recul, un temps de. Je dirais pas d'auto-introspection, c'est pas tout à fait ça, mais de comprendre, pour comprendre, pour s'apaiser peut-être. Enfin, en tout cas, il y a une grosse demande sur ces titres-là.
Alors, il y a aussi un concours d'écriture, Margot Nesridine. Le thème change chaque année, c'est ça?
Tout à fait. Donc là, on a
comment ça se passe, ça?
Donc là, on a organisé donc deux concours d'écriture, donc en 2020 et en 2021. On a pu avoir environ 200 participations au total. Il faut savoir que la deuxième année, on avait également ouvert au personnel pénitentiaire. On avait fait deux
bonne
prix
idée,
différents. En effet, donc le thème change chaque année. Il est décidé aussi parmi l'équipe, parmi la communauté Lire pour en sortir. Et donc, c'est une activité que les personnes font donc en cellule. Elles écrivent de façon autonome. Et là, pour le coup, c'est vraiment une activité à part, mais qui rencontre quand même un certain succès. Il y avait également 54 établissements participants. Donc, ce qui veut dire que c'est au-delà aussi des établissements dans lesquels on est déjà.
Mmh. Est-ce que Agnès, les détenus qui s'étaient inscrits au concours d'écriture le préparaient avec vous, vous en parlaient?
Alors ils nous ont parlé, mais en fait on n'a pas vu les écrits, parce qu'en fait les écrits passent directement au niveau de la région, enfin des établissements pénitentiaires, et ils n'ont pas gagné. Ceux qui étaient dans la maison d'arrêt de Nanterre n'ont pas gagné. En revanche, ils sont très contents de participer, et beaucoup de détenus de notre quartier écrivent.
Écrivent pour, oui. Pour eux-mêmes. Pour, oui. Vous voyez, oui, Margot.
Non, et d'ailleurs, c'est aussi donc une des activités qu'on essaye de développer aujourd'hui. Ce sont les ateliers d'écriture. C'est vrai que ça permet de donner une autre dimension à ces thématiques qu'on met en avant, évidemment, qui est la littérature, la lecture, l'écriture. Et donc, ça se développe petit à petit. Et c'est vrai que ça rencontre quand même un certain succès également. C'est un peu aussi l'étape d'après. Lire et puis écrire.
Mmh. Alors, lutte contre l'illettrisme, c'est aussi un de vos chantiers, si on peut dire. Comment vous vous y prenez?
Ben, c'est vraiment grâce au programme de lecture, hein, comme disait Agnès, voir la progression des personnes qui commencent peut-être avec des livres courts, des livres faciles à lire. Il faut savoir que quand on a créé le catalogue 2020-2022, on a déjà fait le choix que 50% des ouvrages qui soient présents soient des ouvrages faciles à lire. On a fait un travail avec des bibliothécaires, des libraires, des maisons d'édition. On a aussi utilisé un logiciel qui permet de définir le niveau de complexité d'un livre. Donc, par exemple, la syntaxe, le récit linéaire, etc. Et donc, voilà. Et donc, c'est voilà, finalement l'accompagnement, la régularité, le fait de lire des livres, de s'améliorer petit à petit. Et puis, il y a aussi un travail qui est fait, évidemment, avec le pôle enseignement des établissements pénitentiaires où nous sommes présents, qui peuvent parfois soit nous orienter des personnes qui justement sont en train de maîtriser petit à petit, du coup voir comment on peut intégrer une activité de lecture plaisir et pas seulement une activité de lecture scolaire. Et puis aussi parfois quand le niveau est vraiment trop faible et que les bénévoles n'ont pas les clés, plutôt au contraire c'est nous qui réorientons les personnes vers le pôle de l'enseignement.
Agnès, notre émission approche malheureusement déjà de la fin. Qu'est-ce que ça vous apporte sur le plan personnel ?
Écoutez, moi, ça m'apporte une grande joie, vraiment une grande joie de faire des rencontres, je dirais, d'un humain à un humain. Voilà, j'attends rien d'eux, si ce n'est que la rencontre. En fait, les rencontres sont très riches, donc c'est beaucoup de joie. Et puis, le sentiment d'être utile aussi. Je trouve que quand on y est allé, qu'ils sont vraiment contents de nous voir, qu'ils ont découvert des livres, que ça leur a donné un passe-temps, un loisir, parce que beaucoup s'ennuient énormément en détention. Et ils ne font rien, donc je trouve que voilà, se sentir utile et beaucoup de joie, surtout beaucoup de joie.
Et vous voyez des transformations s'opérer
Ah oui, on en voit qui étaient un peu fermés et qui deviennent beaucoup plus ouverts. On en voit qui découvrent la littérature, vraiment. On en voit qui se prennent au jeu, justement, de connaître des auteurs, d'écrire des belles fiches lectures, enfin, voilà.
Et Margot, qu'est-ce que ça vous apporte à vous? D'abord, c'est votre métier. Vous êtes dans l'associatif depuis de nombreuses années, mais qu'est-ce que ça vous apporte?
Ben, c'est vrai que moi, j'ai aussi découvert finalement le milieu carcéral lors de ma prise de fonction en septembre. C'est vrai que je trouve que c'est vraiment fabuleux. Tous les récits que je peux avoir des bénévoles, des auteurs, je pense que ça donne vraiment foi, on va dire, en la lecture et en ce que ça peut apporter à tout à chacun. Et puis, oui, je trouve que les rencontres sont très belles et je suis assez aussi émue par ce que dit Agnès, parce que c'est vraiment ça aussi qui ressort, à la fois des récits que je peux entendre de la part... Par exemple, on reçoit beaucoup de courriers à l'association de la part des détenus qui nous disent à quel point nos bénévoles sont formidables et c'est vrai qu'on n'en doute pas.
Ça réchauffe les cœurs. Bon, en tout cas, une action qu'on va suivre à Philanthropia, parce que elle est vraiment vertueuse et puissante, on le voit, ça, on peut dire que ça change les choses quand même. Tout à fait. En tout cas, il me reste à vous remercier vraiment, Margot Nasreddine, d'être venue jusqu'à nous, nous parler de Lire pour en sortir. Merci aussi beaucoup à vous, Agnès.
Merci de nous avoir reçus.
De ce témoignage vraiment très interpellant. J'invite nos éditeurs, bien sûr, à aller sur le site de Lire pour en sortir. Beaucoup d'informations utiles. Comme toutes les associations, eh bien, on a besoin de bénévoles, on a besoin de dons. Est-ce qu'on a besoin de livres ?
Alors non, pas de livres, vu qu'on les achète au sein de libraires indépendants. On fait aussi des collectes, mais c'est plutôt en entreprise. Par contre, on a vraiment besoin de bénévoles, donc n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail contact@lirepourensortir.org, surtout si vous habitez à Toulon, Nice, Salon de Provence, Arras ou Chalon en Champagne.
Et vous avez préparé votre fiche. Merci encore à tous et merci bien sûr à Guillaume Nougaret qui a réalisé cette émission pour nous. À la semaine prochaine.